RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Vous l'avez entendu, dans un premier temps, on a parlé du discernement. Notamment à une semaine des élections législatives, on s'est demandé comment discerner ce qui est juste et qui va dans le sens des valeurs évangéliques. On a pris l'exemple des exercices spirituels de Saint Ignace. Saint Ignace de Loyola, pardon, le fondateur de la Compagnie de Jésus, les jésuites qui vont nous intéresser jusqu'à 11h et notamment les centres spirituels qui existent ici et là en France. On va regarder ça de plus près, de savoir aussi quel est l'objectif de ces lieux de recueillement et de prière qui accueillent pour quelques jours des personnes. On va voir ça avec nos invités. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez déjà fait une retraite dans un centre jésuite, venez témoigner au 04 72 38 20 23 à nous dire ce que vous a apporté, ce que vous attendiez d'ailleurs d'un tel lieu. Vous pouvez également réagir par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter avec nous jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Je commence avec vous, Clément Nguyen, bonjour.
Bonjour, Melchior.
Bienvenue à vous dans cette émission, Je pense donc j'agis. Vous êtes jésuite, directeur du centre spirituel Manresse. C'est à Clamart, dans le 92, en Ile-de-France. C'est un centre qui se situe en bordure de la forêt de Meudon. Voilà pour situer un peu ce centre Manresse. Bénédicte Boisseau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également à vous. Vous êtes directrice du centre Saint-Hugues à Biviers. C'est tout proche de Grenoble en Isère. Il y a une petite particularité pour votre centre dont on va évoquer dans un instant. Et puis Miguel Roland Gosselin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également. Merci. Dans cette émission. Vous êtes jésuite et membre de l'animation du centre spirituel du Châtelard. C'est à Francheville, tout proche de Lyon. Voilà, exactement. Il y a, Miguel Roland Gosselin, 5 centres jésuites en France. Dont nous avons le centre Manresse ce matin. Il y a également donc le Châtelard, évidemment. La Pérelle, c'est à Namur, par contre, en Belgique. Oui. Et puis Penboc, dans le Morbihan. Et les Cotopaïs.
Cotopaïs, près de Toulouse, dans l'entourage de Toulouse, oui.
Exactement. Qu'est-ce qu'un centre spirituel jésuite, Miguel?
Eh bien, à l'exception des Cotopaïs qui n'ont pas de lieu et qui vont dans des lieux divers, les centres spirituels sont des maisons,
oui.
Des maisons avec habituellement un environnement plutôt plaisant où viennent se retirer pendant 3, 5, 8, jusqu'à parfois 30 jours des gens qui veulent prier, essentiellement prier, à l'école de Saint-Ignace.
Voilà, Saint-Ignace de Loyola qui a fondé la Compagnie de Jésus. Donc, vous êtes jésuite. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, alors on ne va pas faire une heure bien sûr là-dessus, mais voilà ce qu'il a laissé comme héritage Saint-Ignace de Loyola?
Il a laissé d'une part la Compagnie de Jésus, donc cet ordre religieux, et puis ce petit livret des exercices spirituels qui font partie du patrimoine, on peut dire, de l'Église universelle, un trésor pour aider les gens à se plonger dans l'Évangile. Voilà, se plonger dans l'Évangile et en rejoignant le Christ de l'Évangile, reprendre leur propre existence et puis faire un travail de discernement.
Clément Nguyen, si on se replonge un petit peu dans l'histoire, alors ça peut faire sourire, mais ces centres spirituels, avant, on les appelait les maisons de retraite.
Oui, c'est vrai, parce que... Alors, ne pas confondre avec les maisons de retraite EHPAD.
Oui.
Surtout à Manresse, où juste à côté de nous, il y a un EHPAD et la poste se trompe de temps en temps. Non, retraite signifiant se mettre en retrait. Et d'ailleurs, c'est le livret des exercices spirituels commence avec une série de conseils que Saint Ignace donne à celui qui fait les exercices. Et un de ses conseils, c'est de se mettre en retrait de son activité professionnelle, mais en retrait aussi de ses relations, et puis aussi en retrait de son lieu de vie habituel, d'où une maison de retraite, une maison là où je me retire. Je me mets en retrait, Pour mieux écouter, pourquoi est-ce qu'on les appelle des centres spirituels? C'est des lieux pour mieux écouter l'Esprit Saint. Où est-ce qu'il souffle?
Donc le nom a un petit peu changé, voilà, bien sûr, au fil des années, pour pas qu'il y ait cette confusion maison de retraite et EHPAD. Ouais. Par contre, l'objectif reste profondément le même, se retirer pour réfléchir, pour approfondir sa foi avec, dans l'esprit de Saint Ignace de Loyola.
Alors, de fait, ces centres spirituels jésuites, il y a des centres spirituels qui ne sont pas jésuites.
Oui.
Je pense près de Paris, les Carmes.
Hein, oui.
Vers Carme à Avon. Donc les centres spirituels jésuites, de fait, les gens qui viennent apprennent une certaine manière de prier, hein, celle qui est proposée dans le livre des exercices, entrent dans une certaine démarche, une pédagogie ou une dynamique qui suit l'exercice spirituel. Hein. Voilà. Donc c'est un peu ce qui fait la différence ou la particularité des centres spirituels jésuites.
Ouais. Hein. Ça, c'est...
Bon, il y a aussi des ignatiens aussi, hein, puisque Bivier est un centre.
On va en parler justement, c'est une bonne transition, Clément Nguyen, puisque nous avons avec nous Bénédicte Boisseau. Hein. Je rappelle que vous êtes la directrice du centre spirituel Saint-Hugues à Bivier, c'est en Isère dans le 38. C'est un centre qui est géré par des membres de la famille ignatienne, mais qui n'est pas réellement un centre spirituel jésuite comme Manresse et le Châtelard qu'on a aujourd'hui, Bénédicte Boisseau.
Oui, tout à fait. Alors, ce centre spirituel était géré par des jésuites il y a 30 ans en arrière. Et il y a 30 ans, les jésuites se sont retirés et ont confié à la communauté vie chrétienne ce centre. Alors, la communauté vie chrétienne, c'est un mouvement de laïcs qui vit cette même spiritualité de Saint-Ignace que les jésuites. Et donc, depuis 30 ans, nous gérons ce centre spirituel. Alors, on a continué à être accompagnés par les jésuites. Il y a toujours eu un ou deux jésuites qui habitent la maison. Et qui participent à cette mission, mais ils sont là vraiment au service de ce centre géré par des laïcs, ce qui donne une coloration particulière. Mais autrement, on est dans cette même mission d'offrir des temps de retraite avec, pour moi, une grosse particularité des retraites proposées par les Ignatiens. C'est ce contact avec la parole de Dieu, cette façon de prier en se nourrissant de la parole de Dieu, et puis l'accompagnement spirituel, qui est une grosse caractéristique aussi, d'avoir tous les jours des temps d'accompagnement spirituel avec quelqu'un qui va aider, qui va aider dans ce cheminement à travers les exercices spirituels.
Ouais. Miguel Roland-Gosselin, ces centres spirituels, on va dire laïcs, c'est peut-être pas le bon terme, mais comme celui de Saint-Hugues dont on prend l'exemple ce matin, c'est relativement nouveau, c'est après le Concile Vatican II qu'il y a eu peut-être une réorientation des centres.
Je ne sais pas si c'est nouveau pour les centres laïcs.
Oui.
En tout cas pour...
Je parle bien des jésuites. Hein,
oui. Le fait est que depuis peu, nous nous réjouissons que nous ne soyons plus les seuls à donner les exercices, parce que tout seul nous ne saurions pas faire, et parce qu'il y a sans doute beaucoup à faire. Et la communauté vie chrétienne est typiquement une communauté amie avec laquelle nous sommes en amitié et en intelligence propre, enfin vraiment, vraiment facile.
Qu'est-ce qu'on vient y chercher dans un centre spirituel ignatien, d'après vous, Miguel ?
On vient, j'imagine, retrouver le Christ. Alors, habituellement, on sait où l'on va, on sait que c'est une maison où se donnent les exercices de Saint-Ignace. On est plus ou moins au courant, quelquefois, on sait plus ou moins bien de quoi il s'agit. Beaucoup de gens vont faire une découverte. Des gens qui priaient depuis longtemps vont faire avec étonnement la découverte que ils ont l'impression de prier tout autrement comme ils ne l'avaient jamais fait. Ils vont faire une rencontre du Christ. Voilà. Ils arrivent habituellement avec une question. Éventuellement, ce sont des gens qui traversent, on peut dire, une forme de crise, plus ou moins. Voilà, ils arrivent avec une question habituellement, plus ou moins, et ils veulent présenter cela à Dieu en étant soigneusement accompagnés avec la tradition de l'Église qui est garantie et qui les soutient. Ensuite, ils savent pas forcément très bien où mettre les pieds.
Oui. C'est la découverte.
C'est souvent la découverte. Dans l'évaluation finale, quand ils relisent leur retraite, leurs 6 jours, 8 jours de retraite, ils disent « Bigre, je n'avais jamais imaginé aller jusque-là. » Voilà, c'est une découverte.
Ce qu'on entend quand même dans ce que vous dites ce matin, et ça fait écho avec la première partie de l'émission « Je pense donc j'agis » où on évoquait cette question du discernement. Clément Nguyen, les personnes, les retraitants, on peut les appeler comme ça d'ailleurs. Vous les appelez comme ça, Clément ?
Oui, les retraitants. Oui.
Oui. Les retraitants, donc, parfois traversent une forme de crise intérieure, et ont besoin quand même de faire des choix sur leur vie, de se réorienter parfois, en tout cas de trouver une orientation différente.
Alors, c'est pas le cas de tous les retraitants, ou on peut dire les autres, parce que parfois ils viennent pour 48 heures. Pour justement s'arrêter parce que ça bouge très vite, se retirer et faire une pause pour voir où est-ce que je suis, hein, pour pouvoir me diriger mieux. Hein. Souvent, on s'arrête, qu'on se perd, on s'arrête, on regarde le plan avant d'avancer. Bon, mais pour revenir à ces personnes qui traversent une période difficile, une crise, en fait, ils se rendent compte quand ils viennent. Alors, la première démarche, c'est se rendre libre de la crise, de la difficulté, de l'épreuve où ils sont. Hein. Saint Ignace dit bien que quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la désolation, c'était un des termes qui ont été utilisés, c'est-à-dire quand on voit tout noir, on déprime, on est découragé. Bon, c'est pas le moment de prendre une décision. J'aime bien prendre un exemple, je crois que c'est le père Miguel qui l'a utilisé une fois avec des étudiants. Quand on est dans le brouillard, c'est pas le moment de braquer à droite ou à gauche ou de foncer. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On ralentit, on fait attention. Bon, ben les gens qui viennent, qui sont en crise, d'abord, c'est être plus libre de l'épreuve qu'ils traversent, hein, d'être un peu plus dans la paix. Et ensuite, alors, il peut mieux voir clair sur vers où s'orienter. Et le silence, le retrait, l'accompagnement, la prière, et j'aime bien l'expression que vous utilisez, les maisons. Hein. Oui. Aujourd'hui, on dit centre spirituel, des centres, mais il y a une ambiance de maison, hein, et certainement à Bivier, ça se vit très fortement dans ce sens, et puis bientôt le Châtelard. Mais c'est des maisons d'abord, il y a une ambiance. Hein.
Bénédicte Boisseau, c'est la même chose pour le centre spirituel Saint-Hugues à Bivier, même si ce n'est pas un centre officiellement jésuite. Alors, c'est pas le bon terme, bien sûr, mais vu que vous êtes un centre laïque, vous faites partie de la famille ignatienne. Mais quand même, les propositions sont similaires. L'approche, est la même. Oui.
Oui, l'approche, on s'appuie sur ce livret, ce fameux livret des exercices spirituels qui est le point de départ de la dynamique d'à peu près toutes nos propositions. Après, je pense qu'on a une attention, mais comme les centres jésuites, à l'évolution du monde, l'évolution des besoins, des demandes. Et donc, on essaye d'avoir des propositions qu'on adapte à ces besoins. On a plein de propositions pour accompagner un petit peu toutes les situations, les étapes de la vie. On a aussi des propositions de retraite qu'on appelle retraite autrement, où on tisse ensemble une pratique, par exemple une pratique corporelle ou artistique, avec les exercices spirituels. Et ça permet d'être vraiment dans quelque chose d'incarné, de rejoindre les personnes aussi dans des choses qui les animent, par exemple des gens qui pratiquent le yoga d'un côté, et puis qui sont croyants par ailleurs. Et bon, c'est un peu deux mondes différents. Ben, on a des propositions où il y a exercice spirituel et yoga. Et on va tisser ensemble ces propositions pour leur permettre d'aller encore plus loin dans leur cheminement, dans leur retraite ignatienne, avec aussi cette pratique.
Miguel Roland-Gosselin, on est loin d'une introspection psychologique, d'une thérapie. C'est pas l'objectif.
Non, ce n'est pas l'objectif. Alors, sans doute, il y aura dans le parcours des retraites que nous ferons une part de relecture qui sera significative.
Voilà. Qui fait cette relecture ?
Le retraitant.
Le retraitant.
Voilà. Nous allons sans doute l'aider. Alors, encore une fois, ça varie selon les personnes et les nécessités. Mais il y a une part de relecture tout à fait significative. C'est-à-dire que les gens vont à la fois se plonger dans le livre des évangiles, dans la Bible plus largement, et puis ils vont regarder leur propre histoire. et donc être amenés à retourner sur ce qu'ils ont vécu. Voilà. Mais ça ne sera pas de l'introspection, parce que tout ce qu'ils vont faire, même relire l'année écoulée, par exemple, ils ne vont pas le faire en se regardant eux-mêmes, mais ils vont plutôt sonder la mémoire de Dieu. Ils vont se mettre en face de Dieu, ils vont demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir ce que toi, tu as gardé en mémoire de cette année écoulée. On est vraiment dans la prière.
Comment on accompagne quelqu'un sur parfois quelque chose qui est extrêmement privé? Comment vous arrivez à trouver cette distance avec les retraitants?
Ah ben, on accompagne assurément les gens sur quelque chose de très privé, quelquefois tout, enfin voilà, leur vie
oui.
De façon
dans toutes leurs dimensions,
voilà, de oui. façon très intime. Ils ont en face d'eux un homme ou une femme, l'accompagnateur, l'accompagnatrice, dont ils ont perçu sans doute qu'il était fiable, qu'il écoutait avec bonté. Et ils sont en confiance, on y met toute la discrétion possible, voilà. Mais nous allons les inviter à parler vrai et donc à dire ce qui vraiment les anime, ce qui vraiment pour l'instant les occupe, les préoccupe. Alors oui, ce sera de l'intimité. Nous nous laissons inviter là-dedans
oui.
et ça se passe très bien.
Vous avez parlé d'accompagnateur, d'accompagnatrice plutôt expérimentée aussi sur cette question. Clément Nguyen, qui sont ces accompagnateurs? Est-ce que ce sont forcément des jésuites, des religieuses dans le cas où ce sont des femmes, ou même des laïcs?
Déjà, ça ne peut pas être forcément que des jésuites, parce que nous ne sommes pas assez nombreux.
Ouais.
Et justement, Père Miguel l'a souligné, heureusement qu'il y a des laïcs, communauté de vie chrétienne, mais aussi d'autres laïcs. Et peut-être le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont été formées. Hein, ça fait depuis quelque temps déjà. Dans chacun des centres, il y a des propositions de formation à l'accompagnement spirituel. Hein. Alors les personnes qui viennent sont missionnées, c'est-à-dire elles sont envoyées par l'Église en général, c'est-à-dire ça peut être des diocèses, ça peut être des instituts, ça peut être des communautés vie chrétienne. Hein, donc elles viennent se former. Donc il y a un parcours, il y a des thèmes, des manières de faire et surtout s'exercer, apprendre à se former, à écouter. Hein, vous parliez de des choses privées. Le fait, l'accompagnement est un lieu confidentiel.
Oui. Hein,
c'est vraiment un lieu confidentiel. Et donc, qui accompagne? Oui, des jésuites, des religieuses, parce que il y a des laïcs qui vivent de l'esprit d'Ignace, hein, de la spiritualité d'Ignace. Mais il y a aussi des religieuses. Hein, vous avez eu Sœur Sybille Robert. Hein, qui est auxiliatrice là précédemment dans l'heure précédente, mais il y a les religieuses du Sacré-Cœur, il y a les Avières, il y a l'institution, donc il y a quand même un
large.
Certain nombre de congrégations.
Oui.
C'est large. Il y a aussi des prêtres diocésains, voilà, des prêtres diocésains qui se sont formés et puis qui sont envoyés par leur évêque pour ce service d'église. Voilà, donc vous voyez, c'est à Manresa, pour vous dire, sur la partie accompagnement spirituel, il y a une bonne cinquantaine, soixantaine de personnes, et parmi celles-là, il n'y a que seulement, entre guillemets, 10 jésuites. Hein, le reste, c'est des laïcs, des prêtres, diocésains ou des religieuses.
Il est un peu plus de 10h15 dans Je pense, donc j'agis. Ce matin, on parle des centres spirituels ignatiens sur le chemin de Saint-Ignace de Loyola. Le fondateur de la compagnie des jésuites, la compagnie de Jésus. Vous avez la parole pour en témoigner. Si vous avez déjà fait une retraite dans un centre jésuite, dites-nous ce que ça vous a apporté. Bien sûr, si vous avez suivi les exercices spirituels, voilà. Pourquoi cette démarche? Qu'est-ce que vous en gardez encore aujourd'hui? Venez témoigner au 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec nos trois invités jusqu'à 11h, Clément Nguyen, je rappelle que vous êtes jésuite et directeur du centre spirituel Manresa à Clamart dans le 92, Bénédicte Boisseau, directrice du centre spirituel Saint-Hugues à Bivier, c'est proche de Grenoble en Isère, et puis Miguel Roland-Gosselin, jésuite et membre de l'animation du centre spirituel du Châtelard, c'est à Francheville, tout proche de Lyon. Bénédicte Boisseau, comment vous êtes arrivé à rejoindre le centre Saint-Hugues?
Alors, moi, je baigne dans la spiritualité ignatienne depuis au moins une vingtaine d'années, de différentes façons, et entre autres en appartenant à cette communauté vie chrétienne. Voilà, et donc j'avais animé des sessions, des retraites à Saint-Hugues. Et puis à un moment donné, voilà, on m'a appelée à venir comme directrice du lieu. Et où j'ai la chance d'être entourée par de nombreux accompagnateurs, alors de CVX ou voilà, des jésuites, des religieuses ignatiennes aussi, qui viennent animer les retraites et les sessions du centre.
Donc voilà, c'est quelque chose qui vous porte énormément depuis quelques années. On va rentrer dans des questions un peu plus personnelles, de discernement peut-être. Miguel Roland-Gosselin, comment vous êtes devenu jésuite? Comment on devient jésuite d'ailleurs?
Comment on devient jésuite
On est appelé
Oui, sans doute. On a découvert la compagnie d'une manière ou d'une autre et on frappe à la porte. Pour ma part, ça remonte à tout de même maintenant plus de 45 ans.
Oui.
Voilà. Mais je peux dire en tout cas que j'ai découvert les jésuites par la faculté, voilà, ce qui s'appelle aujourd'hui les facultés Loyola Paris, à l'époque le Centre Sèvres. Et je suivais là en auditeur libre, étant étudiant par ailleurs des cours. Et puis j'ai perçu un certain, voilà, chez ces formateurs, un certain rapport juste à l'Église. Il m'a semblé un rapport juste à l'Église et puis aussi un rapport juste au monde, c'est-à-dire confiant dans la complexité du monde d'aujourd'hui. Et puis, donc voilà, j'ai frappé à la porte. J'ai dit, tiens, là, je crois que je trouve des gens qui sont vraiment enracinés, enfin, c'est parmi bien d'autres, mais c'est eux que j'ai eu la chance de rencontrer, des gens vraiment, vraiment à fond engagés dans le monde oui. d'aujourd'hui, et puis vraiment fils, disciples humbles de l'Église, en même temps qu'exigeants, enfants, adultes de l'Église. Enfin, voilà, donc cette posture m'a convenu et j'ai frappé à la porte.
Et c'est parti pour une aventure.
Et c'est parti, oui. Ensuite, alors, on plonge dans une formation qui va durer longtemps, parce qu'on prend son temps. Voilà, on prend beaucoup de temps pour se former, et puis on découvre la fraternité, la vie fraternelle, la vie communautaire entre jésuites, et c'est magnifique.
Merci pour ce témoignage. Clément de Guyenne, même question pour vous.
J'aime bien l'expression tout à l'heure de Sylvie par rapport à l'élection. Il y avait une question. Et de fait, vous avez bien utilisé le mot appel. C'est bien qu'on est choisi dans la vocation, hein, que jésuite ou autre ordre religieux, ou quel que soit le chemin de vie. Il y a un choix de Dieu et puis il y a aussi le choix de la personne. Pour ma part, j'avais d'abord entendu un appel, un choix à devenir prêtre. Voilà. Et donc c'est en cheminant, en explorant cette possibilité que j'ai rencontré un jésuite qui s'appelle Ignace de Loyola. À travers son autobiographie, hein, qui s'appelle Le Récit du Pèlerin, et en lisant son histoire, quoi, son histoire de vie, j'ai trouvé une sorte de consonance très forte avec la mienne, et pour moi c'était une indication à peut-être que le Seigneur t'appelle un peu plus précisément dans cette congrégation. Alors du coup j'ai pris une petite sortie par rapport à être prêtre, et j'ai dit le mieux pour savoir si c'est là, oui. C'est faire le noviciat. Et de fait, dans la compagnie de Jésus, ce que je vis, c'est ce chemin-là, hein, qui répond à un désir profond et qui m'aide le plus à suivre le Seigneur.
Le noviciat, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce mot, et c'est important de bien le préciser, c'est une période vraiment d'initiation à la vie religieuse.
Alors, c'est une période de probation, oui. C'est-à-dire
où il y a des épreuves. C'est un grand terme.
C'est plutôt pas des épreuves, est éprouvé, c'est-à-dire on vérifie, hein, éprouvé dans le sens de vérification, c'est-à-dire le jeune là qui se pose la question, ben, est-ce que le Seigneur m'appelle à être jésuite, il va pendant 2 ans faire des expériences. Voilà, ce qui éprouve, ce qui vérifie, ce sont les expériences. Alors il y a une série d'expériences, donc la vie communautaire, l'expérience de prière, l'expérience des exercices spirituels, l'expérience de l'obéissance, puisque il est sous la responsabilité de ce qu'on appelle un maître de novice.
Oui.
L'expérience aussi de se mettre en retrait, puisqu'il arrête son travail, il quitte un peu de ses relations, l'expérience de contact des plus pauvres, hein, l'expérience de se confier à la providence, hein, ouais, voilà.
Voilà, plusieurs épreuves, exercices, ouais, qui permettent vraiment aussi, ouais, de discerner, mais alors pour le coup, avant vraiment de devenir jésuite. J'aimerais qu'on écoute Henriette au 04 72 38 20 23. Bonjour Henriette.
Bonjour à tous. Je vais essayer de formuler ma question afin de ne pas choquer surtout des personnes qui sont jésuites, soit en tant que prêtre, soit en tant que famille, etc. C'est pas du tout mon objectif, hein. C'est une question que je me pose, moi qui suis quelqu'un de, disons, classe moyenne, simple, en tant que salarié ex-salarié, je suis retraité.
Allez-y, Henriette. Oui.
Oui, mais je vous le dis parce que je ne veux pas choquer. Je me demandais si pour accéder à ces formations fort intéressantes, il n'y a pas un barrage qui est classique, hein. Lorsqu'on est dans une classe moyenne, justement, j'aime pas ce terme, mais c'est comme ça, le fait d'aller vers une formation dite de jésuite, c'est-à-dire ce qu'on considère, quand on ne les connaît pas, vraiment de près, comme une élite, et donc ça, il y a une question également de l'argent, parce qu'on ne sait pas combien ça coûte en moyenne, ces formations sur la longue durée. Est-ce qu'on n'est pas à faire un a priori, en disant je ne vais même pas m'inscrire, parce que de toute façon, ce ne sera pas mon univers, on sera mêlé avec des personnes qui sont de la haute, comme on disait dans le temps, ou avec des prêtres très, 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 très savants. Donc
c'est une bonne question, Henriette, et on va la poser à nos invités. Merci beaucoup d'être venu à l'antenne, Bénédicte Boisseau. C'est pertinent parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pourraient se poser cette question. Est-ce qu'il faut être un peu formé avant d'initier cette démarche de se rendre dans un centre spirituel, Bénédicte?
Alors il faut oser, c'est vrai, il faut oser venir avec les images qu'on peut avoir. Après, quand on est sur place, on découvre que c'est tout simple. En fait, on est en contact et avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et ça, Jésus était en contact de tous, quelles que soient les classes sociales ou autres. Et donc, c'est une rencontre du Christ, de Jésus, à travers, effectivement, les évangiles. Et l'accompagnement, l'accompagnateur est vraiment à l'écoute de la personne, là où elle en est, comme elle est, en essayant de ne pas utiliser du tout de jargon qui pourrait effectivement rendre les choses difficiles. Et on a vraiment le désir d'accompagner chacun tel qu'il est, de rejoindre chacun. Et sur l'aspect tarif, on a à Saint-Hugues, et je pense que c'est pareil dans les centres jésuites, une caisse de solidarité qui fait qu'en fait, on ne veut vraiment pas que ça soit un obstacle pour que les personnes puissent venir. Et donc, il y a possibilité de payer ce qu'on peut et pour pouvoir venir de toute manière. Et beaucoup de gens ont fait beaucoup de communication là-dessus pour que vraiment, et de plus en plus de personnes utilisent cette caisse de solidarité tout simplement en disant, ben voilà, moi je peux payer que ça ou ça. Et on est heureux de ça, parce que vraiment, on ne veut pas être effectivement pour des milieux d'élite.
Donc pas de barrage, hein, comme on l'a entendu de la part d'Henriette. On va marquer une petite pause tout de suite dans Je pense donc que j'agis. On se retrouve dans quelques instants au 04 72 38 20 23 avec vos témoignages, vos réactions. On accueillera Marie d'ailleurs dans un instant. Et vous pouvez également nous envoyer des mails à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, 10h30 dans Je pense, donc j'agis. Vous l'entendez ce matin, on parle des centres spirituels ignatiens, des centres jésuites, et vous avez la parole pour en témoigner, tout comme Henriette. Si jamais vous avez déjà fait une retraite dans un centre jésuite, venez témoigner. Parlez-nous des exercices spirituels également. Qu'est-ce que ça vous a apporté? 04 72 38 20 23, on vous attend. Voilà, au cœur des montagnes, c'était le groupe Glorious pour vous accompagner en ce lundi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Allez, 10h33, toujours avec nos trois invités jusqu'à 11h. Clément Nguyen du Centre Spirituel Manrez, Bénédicte Boisseau du Centre Spirituel Saint-Hugues-à-Bivier et Miguel Roland Gosselin du Centre du Châtelard à Francheville, proche de Lyon. Bonjour Marie.
Bonjour Melchior, merci de me permettre de donner mon témoignage. Bonsoir à vos invités. Alors, c'est le témoignage de la dame précédente qui m'a dit, mais il faut aussi que je le dise. Moi, je suis d'un milieu moyen et d'un niveau moyen. Et je suivais les cours d'un diacre permanent qui lui-même se formait au Centre Sèvres. Et je lui disais mon regret de ne pas être assez capable de pouvoir aller là-bas. Et il me dit, mais si, tu peux y aller, tu verras, tu le verras. Et c'est vrai que j'ai consacré ma première année de retraite à aller suivre des cours là-bas. Et ça a été une année de bonheur. Et je dis, quel que soit le niveau, on peut tirer. Et puis l'ambiance m'a énormément plu. Voilà. Je voulais le dire. C'était à l'époque du père François-Xavier Dumortier. Et entre autres intervenants que j'avais suivis, c'était le père Christophe Théobald. Et je continue à penser que c'était merveilleux. Voilà,
des cours, c'était pas vraiment une retraite, mais plutôt des cours au Centre Sèvres à Paris. Et Clément Nguyen, alors, est-ce qu'on se rapproche justement de ces temps de discernement qui sont proposés lors des retraites?
Est-ce qu'on se rapproche de... c'est-à-dire...
Entre les cours qu'elle a pu suivre, Marie, et puis des cours au Centre Sèvres avec des personnes certainement très inspirantes.
Alors, il y a ce lien entre la foi et la raison. Des personnes qui suivent des cours, alors d'autant plus si c'est des cours de Bible, une manière de lire les Écritures. Mais je dirais que ce n'est pas un passage obligé. C'est-à-dire que les gens qui viennent dans les centres spirituels viennent tels qu'ils sont, hein, avec leur background, comme on dit. Parfois, ceux qui viennent, des jeunes, ils viennent d'un milieu très, très, très scientifique, ingénieur. La philo, la théologie, c'est pas du tout ça. Ça ne les empêche pas pour autant de faire un discernement spirituel, d'entendre où l'esprit souffle. Le plus important, je crois, pour tirer profit d'une retraite dans un centre spirituel, c'est venir avec ce que j'appelle un gros moteur, un grand désir, une grande motivation. Saint Ignace dit ça dans l'un de ses conseils en début de l'exercice, avoir un cœur large, une grande générosité, vouloir beaucoup de la vie, en fait, c'est ça. Hein. Et alors après, ben, les accompagnateurs, accompagnatrices s'adaptent, rejoignent là où sont les personnes, hein, là où elles sont. Et on peut avoir un grand bagage académique, mais si on n'a pas ce grand moteur, ce désir de vie, il y aura peu de profit dans une retraite.
Dans quel état d'esprit il faut y aller, Bénédicte Boisseau, dans ces retraites spirituelles? Est-ce qu'il faut absolument vouloir discerner sur sa vie? Est-ce qu'il faut se laisser appeler, se laisser porter, peut-être, par Saint Ignace?
Alors, il y a toutes sortes de motivations. Il y a, oui, des personnes qui viennent effectivement avec un choix précis à faire, entre autres des jeunes, mais pas que des jeunes, et qui viennent vraiment pour une retraite de discernement, en fait, d'un choix à faire. Et c'est vrai que voilà, les Ignatiens sont connus pour ça. Il y a des personnes qui viennent de toute sensibilité d'Église, mais qui viennent dans des centres spirituels ignatiens quand ils ont un choix important à faire dans leur vie. Mais il y a aussi des personnes qui viennent tout simplement pour approfondir leur relation au Seigneur, pour prendre un temps de pause, pour relire leur année, ou parce qu'ils traversent quelque chose de difficile. Donc c'est à l'image de notre société, en fait, d'une diversité de personnes qui viennent, vraiment très très grande.
Bonjour Marie-Claude. Marie-Claude, est-ce que vous êtes avec nous au 04 72 38 23?
Oui.
Oui, je vais vous laisser couper votre radio derrière si possible.
Ah, j'ai une mauvaise audition donc.
Ah oui.
D'accord.
Allez-y. Allô. Marie-Claude.
Oui. Moi, j'ai fait un discernement communautaire pour commencer avec les jésuites, parce que j'étais responsable d'une association et nous rencontrions des difficultés de personnes, comme ça arrive toujours dans des groupes. Et puis, on a fait un discernement communautaire. Je dois vous dire aussi que je n'avais pas pris contact avec les jésuites avant, parce que je trouvais que j'avais peur que ce soit très intellectuel et que moi, j'étais couturière et je n'avais pas fait d'études plus qu'un CAP. Voilà. Après, j'ai cheminé avec les pères jésuites parce que je suis de Rouen. Je les remercie encore. Tous ceux que j'ai pu rencontrer. Je suis allée dans vos centres pour me former et pour devenir accompagnatrice après. Voilà mon parcours.
Eh ben.
Je dois dire que je suis très heureuse d'entendre, de vous réentendre ce matin, parce que les difficultés de politique que nous rencontrons m'ont mis un peu dans un état de d'écœurement. Comment aller voter dans ces cas-là? Bon. Voilà.
Donc... Eh ben, merci Marie-Claude. Merci vraiment pour votre témoignage. Bon, on est heureux d'être là, de vous accompagner chaque matin de 9h à 11h, en tout cas pour Je pense donc j'agis. Et oui, parfois on fait des petits pas de côté. On ne suit pas forcément le mouvement de parler politique chaque jour. En tout cas, on s'en inspire pour évoquer ce matin, et c'est le cas, le discernement avec Saint Ignace de Loyola. Un message de Patricia reçu dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Ça va vous intéresser, Miguel Roland Gosselin. On ne dira jamais assez l'importance de l'accompagnateur dans une retraite de Saint-Ignace. J'ai suivi la retraite de 30 jours dans une, alors elle dit bien, vraiment une maison de retraite spirituelle. il y a déjà longtemps, mais m'y étant inscrite dans la confiance. La personne qui devait m'accompagner étant subitement empêchée par sa santé, ce fut une autre religieuse qui fut désignée, avec qui je n'ai pas du tout accroché. Et bon, après je passe un petit peu les détails, mais ça ne s'est pas très bien passé parce que apparemment la religieuse ne l'écoutait pas assez. Est-ce que ça arrive encore, ça, Miguel Roland Gosselin? Est-ce qu'il se peut qu'un retraitant n'accroche pas du tout avec un accompagnateur et vice-versa?
Il se peut que effectivement quelquefois un retraitant n'accroche pas avec son accompagnateur ou son accompagnatrice. Alors quand il est arrivé dans sa chambre, il avait trouvé un petit livret d'accueil, et sur ce petit livret d'accueil il était écrit quelque part: si vous avez la moindre difficulté, adressez-vous à qui de droit, c'est-à-dire d'habitude à la personne qui chapeaute un peu les retraites, oui, ou le directeur de la maison, voilà. Donc, si la situation se présente que je ne suis pas à l'aise et pas en confiance, à tort ou à raison, et ça peut être peut-être à raison, eh bien, naturellement, on en parle. Et puis, par exemple, on change d'accompagnateur ou d'accompagnatrice s'il le faut.
Il faut se sentir, voilà, très libre.
Oh, bah oui, bien sûr, bien, oui, sûr.
Il y a pas d'obligation absolument à respecter.
Les accompagnateurs et accompagnatrices, ce sont des gens qu'assurément.
Qui sont formés déjà.
Oui. On peut dire qu'on les a formés. Enfin, nous, ils se forment avec nous. Enfin, voilà, ce sont des proches dans nos maisons. Nous avons confiance en ces personnes-là, formés longuement. Voilà, moi, je suis coordinateur des formations au Châtelard. Je sais un peu l'investissement que ça, oui, représente que de former ces gens-là. Voilà. Pour autant, il peut se faire que voilà, un jour ça
matche pas, comme on dit.
Ça ne matche pas. Oui. L'accompagnateur est vraiment au service et doit se faire très discret. C'est ça voilà. Si ça n'a pas bien marché, c'est peut-être de ce côté-là. Mmh. C'est-à-dire, l'accompagnateur ou accompagnatrice doit se faire à la fois très présent. C'est-à-dire, vraiment, il faut avoir quelqu'un en face de soi, quelqu'un de délicat, hein, mais vraiment quelqu'un qui aura les mots qu'il faut, qui saura entendre ce qui s'est dit, voilà. Mais il devra se faire très discret, le moins encombrant possible, pour laisser le retraitant avec son seigneur.
Oui.
Donc notre boulot, c'est de savoir par quel chemin passer, avec le référentiel que sont les exercices de Saint-Ignace, par quel chemin passer pour aider les personnes à faire des pas, à passer quelques étapes. Voilà, et puis ensuite on les laisse avec leur Seigneur, on les fait passer d'étape en étape, de mieux en mieux dans l'Évangile, point. Mais on se fait très discret.
Bénédicte Boisseau, comment, si on entre un peu plus dans le concret et dans le fonctionnement d'une retraite, comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Quels différents temps sont proposés aussi?
Alors, les retraites, alors habituellement, on a des retraites d'une semaine. Ça, c'est nos retraites, je dirais, classiques. Mais on peut avoir des haltes spirituelles sur un week-end. C'est une façon de commencer à goûter quand on n'ose pas venir pour une retraite. Et puis, ça peut aller jusqu'aux fameux 30 jours d'Ignace de Loyola. Donc, on a plein de durées possibles. Mais souvent, c'est une semaine. Et sur cette semaine, il va être proposé des temps de prière. En fait, l'accompagnateur va proposer des textes pour prier avec la parole de Dieu, des temps aussi pour aller se promener dans le parc, éventuellement des temps d'activité manuelle, parce que c'est bon aussi d'avoir des activités manuelles pendant ce temps de retraite. Et puis ces temps d'accompagnement qui vont permettre d'avancer de jour en jour dans cet itinéraire à travers la parole de Dieu.
On va accueillir Jacques au 04 72 38 20 23. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour à toute l'équipe de RCS, et bonjour aux coach,
aux invités,
qui encadrent Châtelard, et puis dans les autres centres. Voilà, j'ai fait des retraites spirituelles au Châtelard en 2019. En 2020, j'ai été à Flavigny-sur-Auvrin, encadré par les moines de Flavigny-sur-Auvrin, 60 km au nord de Dijon.
Oui.
Par le père Emmanuel Marie, puis le père David, qui est maintenant à Solignac, en Haute-Vienne, parce que les moines de Flavigny font aussi des retraites spirituelles dans différentes régions de France. J'ai trouvé vraiment très bénéfique ces exercices. Donc, on travaillait les exercices à partir de deux livres. Exercices spirituels. Il y avait aussi le père Vianney, père Jean-Marie. on avait un deuxième livret qui est le supplément sur, pour les retraites spirituelles. Donc ça m'a permis de méditer, de prier, de chanter, d'approfondir plus mes prières à la manière de Saint Ignace de Loyola, et de travailler les textes de l'Évangile. J'étais totalement renouvelé et transfiguré par rapport à ma vie qui était ordinaire.
Ça vous a marqué.
Ça ouvre vraiment à tout le monde et ça coûte vraiment pas cher les retraites chez Moine de Flavigny. Hein. Je me permets de le signaler, sans faire de publicité, mais dans différents centres. Voilà.
Merci beaucoup Jacques pour votre appel dans Je pense donc j'agis. Miguel Roland Gosselin, j'aime bien quand Jacques il utilise l'expression ça m'a renouvelé.
Je me réjouis que cet homme-là ait rencontré l'Évangile, plongé dans l'Évangile. Et effectivement, c'est ça qui renouvelle. Nous n'avons, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les centres animés par les jésuites ou par d'autres, parce que nous n'avons pas le monopole des exercices, le service que nous espérons rendre, c'est d'aider les gens à ouvrir les évangiles d'une façon qui habituellement leur est inconnue, je dirais. Le trésor, c'est une certaine façon très sensible de rentrer dans la parole de Dieu. Voilà. C'est une nouvelle façon de regarder la scène d'évangile, d'écouter ce que Jésus dit, de rentrer dans la scène. Voilà. Plusieurs intervenants là, sur les ondes là, on se sont inquiétés du caractère un peu intellectuel ou cérébral, je ne sais, des jésuites. Oui. En fait, je pense que précisément le trésor, il n'est pas du tout de ce côté-là. Mmh. La spécificité, elle est plutôt, je pense, du côté du sensible. C'est-à-dire une fréquentation familière du Christ des évangiles, ça vous simplifie, à mon avis, ça vous complexifie pas, ça vous simplifie. Et ce monsieur, probablement, eh bien, à Flavigny ou ailleurs, il a rencontré, je lui souhaite d'avoir rencontré vraiment le Christ tel qu'il est dans cette page d'évangile là, aujourd'hui. Et puis, c'est une rencontre, et une rencontre amicale, ça vous change un homme.
Ça renouvelle.
Ouais.
Est-ce que vous avez, Clément de Guyenne, vous, des témoignages comme ça de retraitants à l'issue de la retraite qui vous chamboule ou en tout cas vous perturbe, dans le bon sens?
Je pense à l'une ou l'autre retraite que j'ai accompagnée récemment. Mais je crois que le point commun de ces retraites, c'est que les personnes repartent plus libres. Plus libres. Dans une retraite, ils se rendent compte que, tiens, ils sont peut-être empêchés de choisir. Ou empêcher d'aller dans telle ou telle direction ou de poser ou telle décision parce que eh ben, dans leur histoire, dans leur parcours de vie, il y a eu des obstacles qui se sont mis en place sans qu'ils s'en rendent compte. Et pour moi, c'est toujours quelque chose de lors d'une action de grâce quand, au cours d'une retraite, on sent chez la personne à quelque chose à débloquer et que la personne peut du coup être pleinement aller à la rencontre du Christ. Hein. Voilà, pour moi c'est, alors après ça se manifeste plus spécifiquement dans les choix, dans les visions, mais je crois que ce renouveau là je l'entends au niveau d'une sorte de libération. Je suis un autre homme parce que, ou une autre femme parce que plus libre. Hein, plus libre de vivre tel que je suis et non pas souvent ce dont on est libéré, c'est le regard extérieur, les autres, les normes, les valeurs ambiantes. Bah, la personne se sent, non, je peux être vraiment moi-même tel que je suis, avec mes limites, mais aussi mes talents.
Ouais. On pourrait en discuter des heures, mais ça veut dire quoi être libre, ressortir libre, Miguel Roland Gosselin?
C'est sûrement l'un des plus beaux mots du vocabulaire, ça, la liberté. Vraiment. J'ai des exemples en tête comme ça de gens qui arrivent avec une idée préconçue, par exemple, avec un grand désir, par exemple celui d'entrer dans un séminaire, par exemple, c'est un désir, voilà, magnifique. Bon, ce qui est superbe, c'est de les voir se défaire de ça, au fond, se démettre de cette certitude qu'ils ont et qui est peut-être un petit peu prématurée tant qu'ils ne l'ont pas remise à Dieu. Voilà. Et ça, c'est une liberté formidable. J'étais tout occupé à mon désir forcené de ceci ou de cela. Je me défais de ça, je le remets à Dieu. Ça, c'est une liberté. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Je dis, Seigneur, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être séminariste ou je ne sais quoi, ou de fonder cette entreprise comme j'y pense ou pas. Enfin, ce qui m'importe, c'est d'avoir une vie accomplie avec toi. Voilà, c'est ça qui. Alors là, il y a une espèce d'ouverture qui se fait. Je suis libéré de tas de choses qui étaient toutes faites, préfabriquées en moi. Et puis, je vais recevoir. C'est ça qu'on appelle l'élection, le mot a été prononcé par le père Clément tout à l'heure. Voilà. Cet acte de décision, à la fin, dans le parcours de la retraite, je vais décider de ce que je veux. Voilà. Je suis venu pour décider de quelque chose, petite ou grande décision, voilà. Je vais décider. Mais cette qualité de décision qui est en même temps une déprise, c'est-à-dire j'accueille ce qui m'est donné. Voilà. Tout à la fois, je le décide parce que je sais que je le reçois. Et alors là, il y a une espèce de liberté par rapport à tout ce qui était préfabriqué et prématuré.
Bénédicte Boisseau, est-ce qu'on peut venir en couple discerner?
Oui, tout à fait. Alors, on a des propositions, des retraites qui sont exprès pour les couples. Et donc, où il y a des temps en couple, des temps aussi personnels, des temps éventuellement en groupe aussi pour partager. On a des préparations au mariage. On a aussi des propositions qui s'appellent « Est-ce bien elle ? Est-ce bien lui ?» et où il y a de plus en plus de monde qui vient, des personnes qui se demandent s'ils sont prêts ou pas à s'engager ensemble. Voilà. Et puis, il y a aussi des personnes qui viennent en couple, mais pour vivre chacun leur retraite personnelle. Et puis après, se retrouveront à la fin de la retraite pour ensemble se dire les fruits de la retraite. Mais c'est aussi une attention qu'on a de pouvoir accueillir les couples et même les familles. On a quelques propositions pour les familles.
Eh ben écoutez, c'est sur ces mots qu'on va finir cette émission. Merci vraiment à tous les trois d'avoir été avec nous pendant une heure. Je rappelle, Bénédicte Boisseau, que vous êtes directrice du centre spirituel Saint-Hugues à Biviers. C'est proche de Grenoble, hein, en Isère, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site saint-hugues.fr, hein, tout simplement. Miguel Roland-Gosselin, merci également à vous. Jésuite et membre de l'animation du centre spirituel du Châtelard, c'est à Francheville. Et là aussi, on peut retrouver plus d'informations sur châtelard-sj.org. Et enfin, Clément Nguyen, merci également à vous du centre spirituel Manrez à Clamart. Et là aussi, retrouvez sur le site manrez.com. Il est presque 10h55. On va, comme tous les lundis, parler de la petite enfance avec notre chroniqueuse. Et nous retrouvons Camille de Montigny. Bonjour Camille.
Bonjour Melchior.
Vous êtes responsable du mécénat dans l'association Mille et un mots. Et ce matin, avec le soutien de la Fondation Saint-Irénée, vous nous parlez de l'éveil des bébés et de Test and Learn. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qu'est le Test and Learn?
Alors le Test and Learn, c'est une méthode de développement de projet qui consiste à tester des hypothèses sur des petits groupes d'utilisateurs, puis à utiliser immédiatement les résultats pour améliorer le service proposé. On dit que c'est une méthode agile. Elle se base sur des cycles de tests très courts et sur la possibilité, une fois une hypothèse validée, de la diffuser rapidement.
Et alors, quel rapport avec l'éveil du langage chez le bébé?
Eh bien, c'est une méthode qu'on utilise chez Mille et un mots. Comme vous le savez, nous avons créé un programme d'accompagnement à distance pour aider les parents à parler, jouer et lire plus avec leur bébé de 0 à 3 ans. Notre objectif, c'est que les parents prennent conscience de tout ce qu'ils peuvent apporter à leur enfant dans cette période phare de l'éveil du langage, et qu'ils adoptent de nouvelles habitudes pour les stimuler davantage. Mais prendre de nouvelles habitudes, que ce soit sur le sommeil, l'alimentation ou l'éveil de son bébé, on sait tous que c'est difficile. En fait, ce n'est possible que si on part du parent, de ses motivations et de son quotidien. Le Test and Learn, Ça nous permet d'affiner notre programme en étant centré sur les usages des parents.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'une amélioration de votre programme sur cette base ?
Oui, tout à fait. Comme vous le savez, notre accompagnement passe par des envois postaux de livres adaptés à l'âge de l'enfant, par le suivi régulier par téléphone d'une experte de la petite enfance et par des envois de conseils réguliers par SMS. Il y a quelques mois, on commençait par donner aux parents des conseils pour intéresser son enfant au livre. Prendre l'habitude de lire avec son bébé, c'est un axe fort de notre accompagnement. Mais il y a aussi plein de moments de routine pendant lesquels on peut parler avec son bébé. On a voulu essayer de mettre ça en avant dès le début du programme. On voyait que cela changeait la vie de certains parents, comme la maman d'Almas qui nous disait « Avant mille et un mots, chaque change était une séance de catch. Puis j'ai reçu le SMS qui conseillait de raconter à son bébé ce qu'on faisait pendant ce moment-là, et ça a tout changé. »
Donc vous avez testé une nouvelle façon de démarrer le programme sur un petit groupe de familles finalement.
Exactement. On a créé un nouveau module d'introduction au programme, principalement axé sur les conversations quotidiennes avec son enfant. Ce module, il fait découvrir aux parents que chaque routine du quotidien, comme le repas, comme le bain, l'habillage, peut être propice à des échanges stimulants avec son enfant et que ça ne prend pas plus de temps. Cela commence par un appel pendant lequel on propose aux parents de regarder une courte vidéo qui va l'inspirer pour se donner une petite mission. À l'appel suivant, il fait le bilan avec son appelante. En testant ce nouveau module d'introduction sur un petit groupe de parents, on a appris que cette façon de démarrer le programme aide les parents à rentrer dans le programme et à adopter des pratiques plus stimulantes. La majorité des parents essaient une petite mission dès les premières semaines. On l'a donc déployé rapidement à tous les parents.
Et c'est très intéressant de voir comment Mille et un mots innove pour aider les parents à éveiller le langage de leur bébé. Et votre objectif, on le rappelle, hein, Camille, c'est que les enfants arrivent à l'école en ayant toutes les chances de réussir. Et vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur leur, sur toutes vos actions. Et pour vous soutenir, en allant sur le site milleetunmots.org. Merci beaucoup, Camille de Montigny, d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes responsable du mécénat dans l'association. On arrive à la fin de cette émission. C'est passé très très vite. Merci vraiment à vous toutes et tous pour vos nombreux appels et témoignages ce matin dans Je pense donc j'agis. Vous dire qu'on approche doucement de la fin de saison. Il nous reste deux semaines, donc ça va passer très très vite. N'hésitez pas d'ailleurs, moi je suis toujours preneur de sujets pour la rentrée, pour préparer septembre. Je vous dis d'ailleurs, je vous annonce que Je pense donc j'agis est reconduite hein, pour la saison 2024-2025. Si vous avez des idées de sujets, des envies particulières, des choses qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse direct@rcf.fr, direct@rcf.fr, ou alors à nous rejoindre dans notre groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Vous dire que demain, à quelques tours du premier tour des élections législatives en France, on s'intéressera avec Anne-Claire Léo à la participation citoyenne des personnes en situation de pauvreté, à leur implication et à leur intérêt pour la vie politique et à ce qu'elles attendent des responsables politiques. Ce sera une émission un peu spéciale, hein, de 9h à 11h. Donc voilà pour le programme de demain. Merci à Nathan, Catherine, Véronique, Pierre et Nicolas qui ont permis la réalisation ce matin de Je pense donc j'agis. Je vous souhaite une très belle journée.